des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
Cube Radio.
Annonce cet après-midi, en début d'après-midi, de l'élargissement de la campagne de vaccination à toute la population en général. Vincent, par tranche de... Il y a toute une mécanique, là, par tranche. De quelques années.
Ça commence demain, 50-59 ans. C'est la plus grande
tranche. Tranche de 10 ans, c'est ça.
Ouais, ensuite, ce sera vraiment par 5, de sorte que lundi, le 3, 45-49 ans. Mercredi, le 5, 44-40. Vendredi, 35-39, et en descendant jusqu'au 18-24, le 14 mai.
14 mai, tout le monde, sur deux semaines, ni plus ni moins, là, tout le monde va avoir eu cette possibilité de réserver sa place. Roxane Borges-Del Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Dumont.
C'est bien fait et c'est une bonne nouvelle, selon vous, dans la vaccination?
C'est non seulement une très bonne nouvelle, mais la manière et la stratégie qu'ils proposent est également excellente dans la mesure où on montre aux gens, pour chaque tranche d'âge, qu'on leur laisse quelques jours pour prendre la vaccination, pour en fait prendre leur rendez-vous, et après, on ouvre à une autre tranche. Donc en fait, ça crée un peu de rareté pour un service qui est gratuit et pour lequel les gens, du coup, étant donné la gratuité, pourraient éviter de se dépêcher, si je peux dire, ou prendre leur temps.
Pourraient laisser traîner ça, puis il n'y a rien de pire que ce qui traîne pour finir par jamais le faire.
C'est ça. Donc en fait, la rareté que ça crée avec ce temps qu'on donne à chaque tranche d'âge qui est de 48 à 72 heures est une excellente stratégie pour encourager les gens à se dépêcher à prendre leur rendez-vous.
Êtes-vous confiante, êtes-vous confiante qu'une fois tout ça fait, là, oui, on va avoir atteint ou on va s'être approché du 75% recherché?
Mm-hmm.
Ouais, êtes-vous confiante de ça?
Si on va réussir à atteindre le 75% recherché,
oui,
c'est une idée? Oui, je pense que on a vu une très bonne adhérence, en fait une très bonne réponse des premiers tranches de la population qui se sont fait vacciner. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est que la réticence vaccinale a beaucoup diminué sur les dernières enquêtes de l'INSPQ. Donc les gens ont moins peur maintenant qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont vaccinés, qu'il n'y a pas d'effets indésirables, mis à part quelques cas extrêmement rares de thrombose avec le vaccin AstraZeneca. Donc non, les gens ont confiance et je pense qu'ils veulent tous se faire vacciner pour sortir de cette crise sanitaire et revenir à une vie normale.
Est-ce qu'on devrait, vous comme experte en santé publique, je comprends bien que le gouvernement a fixé 75%, en même temps, là, on vaccine pas les enfants, c'est un pourcentage de population qu'il faut enlever pour l'instant, là, qu'on peut pas considérer. Mais est-ce qu'on devrait viser plus, si on veut vraiment avoir la paix, que le virus ait plus de prise sur notre société, viser, je sais pas moi, 80, même moi je viserais 85% de la population?
Mais en fait, ça dépend des maladies. C'est très difficile de se prononcer tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. On peut se baser que sur les études qu'on a d'autres virus qui sont aussi contagieux ou similairement contagieux. Donc, il y a certains virus qui sont très contagieux, comme par exemple la rougeole, pour lesquels on a besoin d'atteindre un taux de vaccination supérieur à 90%. Avec la grippe, on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau-là. Donc, c'est difficile de se placer.
Il y a un taux où la maladie n'a plus la capacité de circuler, puis le virus s'éteint tout simplement par lui-même, là.
Exact. Et pour l'instant, en fait, c'est difficile de le dire, surtout avec les variants, etc., qui sont certains plus contagieux, d'autres moins, etc. Donc, dans ce contexte, déjà, si on atteint 75%, je pense qu'on va être heureux. Si on pouvait atteindre 80 ou 85%, ce serait encore mieux.
Ouais. C'est un peu drôle, ça. Les gens qui refusent la vaccination, vous parlez de la rougeole, là. Il y a un petit pourcentage très faible de la population qui ne fait pas vacciner ses enfants pour des maladies comme celle-là. Mm-hmm. Et qui vont se présenter dans un party de famille ou une fête d'enfants. Ils vont dire, regardez, pas de problème, mes enfants sont pas vaccinés, mais puis ils l'ont pas eu. Ne comprenant même pas que c'est par la vaccination de tous les autres que la maladie ne circule plus dans la société et donc que leurs enfants sont protégés non pas malgré leurs décisions, mais par la responsabilité de tous les autres. Mais il me semble que dans le cas de la COVID, ça va être un peu particulier, là, parce que ça va être ça aussi, dans le fond, le 20% non vaccinés, ils vont profiter du bénéfice que la pandémie, si la pandémie disparaît, ils vont profiter du bénéfice sans avoir fait l'effort, non?
Oui, absolument. Et en fait, ils tirent parti du bien commun, en fait. Et la vaccination est ce qu'on appelle une externalité, c'est-à-dire elle procure un effet externe aux individus qui ne sont pas vaccinés autour d'une personne vaccinée. Donc, rendu à un certain niveau de personnes vaccinées, ben, toute la population en profite. Mais il faut espérer qu'on n'aura pas trop de cavaliers solitaires, comme on dit en économie publique, c'est-à-dire de gens qui vont profiter du fait que les autres soient vaccinés sans aller eux-mêmes se faire vacciner. Parce que sinon, on pourrait descendre à des pourcentages de 60, 65% et ça serait pas suffisant.
Est-ce que vous pensez, parce que là, les premiers qui s'inscrivent, à chaque fois qu'on ouvre les sites Internet d'un nouveau groupe d'âge, les premiers qui s'inscrivent sont très agressifs, sont là dans les premières minutes. Mais on voit ce que les Américains vivent présentement. Là, ils ont atteint un taux, je l'ai pas devant moi, mais dans les 60. Et là, ça ralentit. Puis ça ralentit pas parce qu'ils ont plus de vaccins en quantité disponible. Ça c'est pas parce qu'il manque de personnel pour vacciner. C'est que les gens, les prochains groupes là, qui viennent, oui, il y a encore du monde qui se présente pour se faire vacciner. Mais ils ne se ruent pas. Là. C'est pas des gens qui. C'est des hésitants. Là, puis à un moment donné, ils se décident. Puis ils vont. Puis, est-ce qu'on devrait avoir une stratégie de communication particulière pour rassurer, répondre aux questions, stimuler, vaincre la loi de l'inertie de ceux qui sont pas contre, mais qui sont juste un petit peu paresseux? Là, ils sont chez eux, puis ils pensent pas, ils n'ont pas le goût.
Oui, absolument. Non seulement il faut déployer des campagnes d'information, de promotion de la vaccination, mais également, comme je disais au début, cette stratégie de l'offrir, d'offrir à certaines tranches d'âge, à chaque tranche d'âge, 48 à 72 heures pour s'inscrire, ça crée une rareté et une pression, en fait, qui fait que ça va, les gens vont se sentir, les gens qui hésitent vont se dire, bon, je vais le prendre quand même, le vaccin, le rendez-vous, parce que je veux pas l'échapper, puis je veux pas qu'il y ait plus de doses pour moi. Donc, dans ce contexte, c'est très bien ce qu'a fait le gouvernement. Et après, quand on sera rendu au niveau de vaccination de 60% et plus, comme aux États-Unis, de toute la population, mais c'est sûr qu'il faudra réfléchir à d'autres stratégies de promotion de la vaccination pour encourager les dernières personnes qui seront résistantes. Mais peut-être qu'on n'aura pas besoin de passer par là. Et peut-être qu'on va avoir la chance d'atteindre des taux de 75-80% comme on les a, et même plus dans les générations de 60 ans et plus actuellement.
Vous venez, je change complètement de sujet, parce que vous venez de publier avec Cyrano, l'Institut Cyrano, un rapport sur l'évolution des dépenses dans votre domaine, dans le secteur précis de la santé publique, là, sur une longue période depuis le début des années 2000, et qui démontre que dans l'ensemble des dépenses en santé, les dépenses de santé publique ont augmenté, ont connu une croissance bien inférieure aux autres dépenses de santé. Vous pensez que c'est un secteur qui a été négligé, puis double question, là. Est-ce qu'on s'en ressent? Est-ce qu'on paye le prix pour ça avec la pandémie qui nous frappe?
Alors, pour la première question, vous avez raison. La santé publique a toujours été le parent pauvre du budget de la santé, parce que c'est les interventions en santé publique n'ont pas d'effet à court terme et ont un effet à long terme. Donc, c'est difficile de démontrer, par exemple, les campagnes qui prennent des bonnes habitudes de vie, ou les campagnes pour réduire le tabac ou réduire l'alcoolisme, etc., vont avoir des effets à long terme. Donc, dans ce contexte, c'est difficile de démontrer les effets et de montrer, en fait, l'intérêt d'investir en santé publique. Mais par contre, si on attend un peu pour regarder ces effets-là, on se rend compte que finalement les malades chroniques vont être mieux contrôlés et qu'on aura beaucoup moins de monde dans les soins hospitaliers ou dans les urgences. Pour répondre à votre deuxième question, en effet, la santé publique a été sous-financée, et on l'a vu au début de la première vague, on n'était pas équipé pour ni en ressources humaines, ni en ressources financières, ni en locaux pour faire ces enquêtes épidémiologiques qui étaient très importantes à faire pour faire le suivi, le traçage des personnes qui avaient été en contact avec des ou qui étaient positifs. Donc dans ce contexte, on a eu du mal au début à se placer et à fournir des services de santé publique qui soient adéquats et qui répondent aux besoins de la population. Mais heureusement, le gouvernement a très vite réinvesti en santé publique avec la COVID et ils ont pu mettre en place les ressources nécessaires pour faire les enquêtes épidémiologiques. Mais j'aimerais juste dire quand même que c'est important que cet argent-là qui a été investi pour la COVID, après la COVID, ne retourne pas ailleurs dans un autre poste budgétaire du ministère de la Santé ou de l'Éducation ou je ne sais où. La santé publique est quelque chose d'important et on a des gros rattrapages à faire pour rattraper en fait les dépenses.
J'ai l'impression que pour au moins une génération, quand quelqu'un va arriver dans une défense de budget et parler de l'importance de la santé publique puis des risques d'une pandémie, au moins les autres autour de la table vont savoir de quoi on parle exactement là.
Oui, tout à fait, mais il faut faire attention parce que la santé publique, c'est pas juste la
santé
et les enquêtes
épidémiologiques.
C'est aussi la promotion, la prévention, etc.
comprends bien ça. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, bonne journée.
Au revoir. On s'arrête.